Merci d'écouter RFI. Il est 3h à Paris. Bienvenue pour un nouveau journal.
Mathis Limano.
21h à Washington, dernière nuit aux États-Unis avant l'ouverture des bureaux de vote. Qui de Donald Trump ou Kamala Harris s'occupera la Maison Blanche pour les 4 prochaines années? Impossible de dégager une tendance tant les sondages sont indécis. Juste après les titres, les explications de notre correspondant à Washington. Explications quant au système électoral très particulier aux États-Unis. En Moldavie, on a déjà voté et élu le nouveau président, ou plutôt la nouvelle présidente. Et malgré les tentatives d'interférence lors du scrutin de dimanche, la pro-européenne Maya Sandu l'a emporté. Et puis en Guinée équatoriale, une affaire de sextape fait scandale dans la haute administration. L'élection présidentielle américaine, c'est ce mardi. Mais pour désigner là ou le futur locataire de la Maison Blanche, c'est un processus compliqué. Mode d'emploi de ce système électoral très particulier avec Guillaume Nodin.
Aux États-Unis, seules 538 personnes sont habilitées à désigner le président. Ce sont les grands électeurs qui composent le collège électoral. Il en faut au minimum 270 aux candidats pour entrer à la Maison Blanche. Ces grands électeurs sont désignés au suffrage universel, état par état, au cours de 50 élections différentes. Chaque État désigne un certain nombre de grands électeurs en fonction de son poids démographique. L'une des conséquences, et c'est déjà arrivé en 2016 pour l'élection de Donald Trump par exemple, c'est qu'il est tout à fait possible qu'un candidat soit élu en ayant remporté moins de voix au niveau national que son adversaire. Mais les électeurs de chaque État ne votent pas seulement pour la présidentielle, le bulletin peut même faire plusieurs pages avec beaucoup de cases à remplir. À l'élection présidentielle s'ajoute la désignation des représentants de chaque État au Congrès. Dans certains d'entre eux, il y a aussi les sénateurs. Et puis il faut aussi désigner les représentants et sénateurs dans chaque État fédéré, des responsables locaux comme des shérifs ou des juges, ou encore voter pour des référendums locaux sur des sujets aussi variés que la rémunération des employés de la restauration ou l'accès à l'avortement. En fonction de qui ils mobilisent, ces scrutins complémentaires peuvent avoir une influence sur le résultat de la présidentielle. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
L'Amérique qui vit ses dernières heures de campagne avant l'ouverture des bureaux de vote, alors qu'un tiers des électeurs a déjà voté en anticipé. Le monde suspendu au vote des États-Unis, notamment l'OTAN, qui devra rester uni, quel que soit le vainqueur, selon son chef Mark Rutte. Un message qui résonne dans un pays qui se veut pressant pour rejoindre l'alliance militaire, l'Ukraine. La chef de la diplomatie allemande était d'ailleurs à Kiev ce lundi. Berlin est le deuxième fournisseur d'aide à la défense derrière les États-Unis. 8e déplacement dans le pays pour Annalena Baerbock pour tenter de rassurer les Ukrainiens, alors que Kiev reproche à ses alliés occidentaux leur manque de réaction face aux renforts nord-coréens arrivés en Russie. Ils sont 11 000 soldats de Pyongyang déployés près du front, selon l'Ukraine. Le pays qui continue de perdre du terrain, plus de 600 km² pour le seul mois d'octobre, le plus gros gain mensuel depuis mars 2022 pour le Kremlin. Autre conflit, au Proche-Orient, où les belligérants vont scruter les résultats de la présidentielle américaine. La guerre se poursuit à Gaza. L'hôpital Kamal Adwan, dernier en service dans le nord de l'enclave, subit de violents bombardements, indique le ministère de la Santé gazaoui. Israël qui dit vérifier ces informations, mais a affirmé être à l'origine d'une frappe sur Damas ce lundi, la capitale de la Syrie, où le chef de la branche syrienne du renseignement du Hezbollah a été éliminé, selon l'armée israélienne, qui indique aussi la mort plus tôt dans la journée d'un commandant local du parti chiite au sud Liban. Pour sa part, le Hezbollah a lancé une salve de roquettes sur la ville de Safed dans le nord d'Israël. Toujours à l'enquête, à l'écoute de RFI, les 4h04 à Chisinau. La Moldavie et cette réélection saluée par Berlin, Paris, Bruxelles, Kiev ou encore Washington. Maya Sandu reconduite à la présidence du pays après l'élection de dimanche. La présidente pro-européenne a récolté 55% des voix contre le pro-russe Alexander Stoyanoglo et ses 44%. Ce second tour de la présidentielle a été marqué par des tentatives de déstabilisation, mais pour les observateurs internationaux, l'élection s'est déroulé dans les règles. Notre envoyé spécial Julien Chavanne.
La guerre hybride menée par la Russie a échoué. Les observateurs européens déployés dans le pays dressent un bilan positif du vote malgré les interférences étrangères. John Blikra est le chef de la délégation du Conseil de l'Europe.
Malgré les efforts continus de la Russie et de ses alliés parmi les oligarques moldaves pour perturber le scrutin et offrir des incitations illégales, cela n'a pas abouti. Cela montre que la majorité de la société moldave moldave peut choisir ses propres dirigeants et tracer sa propre voie.
Le second tour a été marqué par des alertes à la bombe dans plusieurs bureaux de vote, en Allemagne notamment, où Berlin dénonce des tentatives inacceptables pour entraver le vote de la diaspora. On a aussi vu des expatriés moldaves installés en Russie amener gratuitement par bus ou par avion à des bureaux de vote. Mais rien qui n'empêche Maya Sandu de retrouver son fauteuil d'après les autorités électorales. Cette victoire est contestée aujourd'hui par le Parti Socialiste Moldave. Maya Sandu est illégitime, c'est la présidente de la diaspora, écrivent dans un communiqué les soutiens du candidat malheureux Alexander Stoyanoglo. L'opposition n'appelle pas pour autant à manifester, elle donne rendez-vous dans les urnes pour la prochaine bataille, les élections parlementaires prévues en 2025. Julien Chavanne, Kissinao, RFI.
Les opérations de recherche des disparus se poursuivent en Espagne. Elles se concentrent sur les parkings souterrains de la région de Valence où une morgue se tient prête à accueillir près de 400 victimes. Pour le moment, le bilan des inondations tragiques de la semaine dernière s'établit à 217 morts. Excédés, les rescapés ont réservé un accueil hostile au roi, à la reine et au premier ministre dimanche. Felipe VI, Laetitia et Pedro Sanchez reçus par des jets de boue et des insultes. En bref, ce tir de missile balistique de la Corée du Nord, il y a un peu plus d'une heure, annonce de Séoul. Il a atterri dans la mer du Japon et ce, 5 jours après le tir d'un missile balistique intercontinental, présenté par Pyongyang comme le plus avancé de l'arsenal nord-coréen. L'actualité du monde nous emmène désormais en Guinée équatoriale, le pays agité par un scandale de sextape. Des vidéos tournent sur les réseaux sociaux et montrent un très haut fonctionnaire en plein ébat sexuel dans son bureau. Lundi, le vice-président du pays a annoncé sur son compte X que le gouvernement allait procéder à la suspension immédiate de tous les fonctionnaires qui ont eu des relations sexuelles dans les bureaux des ministères. Alexandra Banjon.
Depuis quelques jours, des centaines de sextapes ont fuité sur les réseaux sociaux. On y reconnaît Balthazar Ebangengonga, le directeur de l'Agence nationale d'investigation financière, dans son bureau au ministère des Finances, avec différentes partenaires, dont des épouses et filles de ministres, de dignitaires et de généraux. Il existerait plus de 400 vidéos. Elles se seraient retrouvées sur les réseaux sociaux alors que le directeur de l'administration fiscale a été placé en détention préventive dans une affaire de détournement de fonds publics et ses téléphones et ordinateurs sur lesquels se trouvaient ces vidéos confisquées. Ce n'est pas la première fois que des sextapes impliquant des fonctionnaires se retrouvent sur les réseaux sociaux, mais l'affaire a pris une ampleur inédite du fait de la notoriété des protagonistes. Balthazar Ebangengonga n'est autre que le fils du président de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC, neveu du président de la Guinée équatoriale.
Le principal suspect du meurtre de Philippine, extradé en France ce mercredi. Il a finalement accepté son extradition depuis la Suisse où il avait été interpellé peu de temps après la découverte du corps sans vie de l'étudiante de 19 ans. Un budget très loin du compte du fonctionnaire bashing. Les hôpitaux publics français en grève depuis ce lundi à l'appel d'une intersyndicale. Grève symbolique, des bannières accrochées, des tracts distribués, mais le travail continue. Les professionnels de santé tiennent tout de même à dénoncer le nouveau PLFSS, le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Car malgré une petite hausse des dépenses, l'intersyndicale dénonce un budget en trompe-l'œil, Gali Bonin.
Une augmentation de 2,8% pour l'assurance maladie et de plus de 3% pour les établissements de santé. Sur le papier, le budget semble positif, mais dans les faits, la hausse effective est quasi nulle, puisqu'en parallèle, l'exécutif veut augmenter les cotisations de retraite du personnel hospitalier. Yann Le Baron, secrétaire national de l'UNSA Santé.
Un PLFSS avec une augmentation qui serait en deçà de 10% serait déraisonnable. Tous les indicateurs sociétaux associatifs, y compris gouvernementaux, disent il faut 100 000 professionnels de plus pour prendre en charge le secteur de la personne âgée.
Des besoins pour la prise en charge des aînés, mais tous les secteurs sont sous tension, estiment les syndicats. En première ligne, les urgences, comme l'explique Christophe Prudhomme, responsable santé et action sociale à la CGT.
Les urgences sont le miroir grossissant de tous les dysfonctionnements de notre système de santé. Les gens viennent aux urgences parce qu'ils n'ont plus de médecins. Ceux qui nous posent problème aux urgences, c'est ceux qu'on doit hospitaliser pour lesquels on n'a pas de lit, parce qu'on a fermé trop de lits. Sur 25 ans, on a fermé quasiment 100 000 lits.
Avec cette grève, les syndicats espèrent alerter les patients sur le manque de financement du réseau. Une mobilisation nationale qui devrait durer 7 semaines jusqu'au 21 décembre.
Gali Bonin, période de grève qui couvre l'examen du budget de la sécurité sociale à l'Assemblée nationale. RFI, il est 3h10 à Paris, 2h10 en temps universel. Tout de suite, retrouvez Emmanuel Bastide pour 8 milliards de voisins.